Vous écoutez RTL.
Pile 18h. Et c'est donc RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos et à la une. Les parents de Maëlys s'expriment pour la première fois depuis les aveux de Nordal Lelandais. Dans maintenant une demi-heure, Jennifer et Joachim, accompagnés de leur avocat, donneront une conférence de presse à Lyon. Un mois après la découverte du corps de la petite fille Maëlys, ils attendent maintenant des explications sur les circonstances de la mort donc de leur petite fille. Mais Nordal Lelandais reste muré dans le silence. Alors dans RTL Soir, évidemment, on vous fera vivre en direct cette conférence de presse. On vous expliquera pourquoi, également, la piste Lelandais intéresse aussi les enquêteurs dans deux disparitions dans la Drôme. RTL Soir, première édition avec vous, Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres.
La bonne nouvelle pour les automobilistes parisiens, les PV illégaux de la société Striteo vont être annulés. C'est la même entreprise qui a dressé des milliers de PV bidons. Pourtant, la ville de Paris ne casse pas le contrat. Un meurtre sadique à quelques lieues sous les mers. Le Danois Peter Madsen est jugé aujourd'hui pour la mort de la journaliste suédoise Kim Wall dans son sous-marin. Il parle d'un accident de dépressurisation. À suivre également un scénario de science-fiction, une nouvelle technique permet de prédire si un patient va sortir du coma. Au Lens, citoyenne, c'est l'opération séduction des pompiers du Nord pour féminiser leurs effectifs. Et puis, halte au feu, Michael Youn appelle à une trêve dans le conflit TF1-Canal, le temps de la diffusion des Enfoirés. La Bourse de Paris, elle termine en nette hausse d'1,28% à 5 254 points. Les courses à Fontainebleau, il fallait jouer le 16, le 13, l'As, le 14 et le 12.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, le 8 mars, c'est aussi la journée de l'audition. Un quart des Français touchés par des acouphènes. Mais comment ça se déclenche? Comment ça se soigne? Dans la foulée, une troisième plainte pour viol à l'encontre de Tariq Ramadan. La première à avoir brisé le silence, Enda Ayari sera l'invitée d'RTL Soir. Les défenseurs du prédicateur musulman font de sa vie un enfer. Puis direction les coulisses de l'actualité, plus fort que James Bond, après l'empoisonnement d'un agent double russe à Londres, on va vous amener en coulisses de la guerre des espions. Alain Duhamel à 18h30, les embarras de Marine Le Pen. 19h15, on refera le monde, 100% femmes ce soir. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Marc-Olivier.
Une France coupée en deux demain.
Oui, un peu comme aujourd'hui, hein. Toujours de l'humidité dans la moitié nord, notamment au nord de la Loire, avec beaucoup de nuages, quelques pluies, alors pas toujours de grosses quantités, mais toujours cette humidité ambiante assez désagréable, ça va durer toute la journée. Au sud de la Loire, là, on aura quelques belles éclaircies avec tout de même un voile nuageux un peu plus épais en cours d'après-midi. Et puis, comme aujourd'hui, on aura ce qu'on appelle les entrées maritimes. Plus de nuages dans le Languedoc-Roussillon, avec là aussi quelques pluies, notamment à proximité des Cévennes. Tout cela avec des températures en hausse par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est plutôt bien. En cours d'après-midi, 10 à 15 degrés dans la moitié nord et 16 à presque 20 degrés dans le sud.
C'est pas mal, merci beaucoup.
C'est mieux, ça.
Ouais, c'est mieux, merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Les parents de la petite Maëlys vont donc s'exprimer dans un peu moins d'une demi-heure maintenant, Isabelle, un mois après les aveux de Nordal Lelandais.
L'ancien militaire silencieux pendant des mois a finalement reconnu avoir tué la petite fille involontairement, selon ses termes. Mais il ne s'est pas expliqué sur les circonstances de la mort. En attendant, les investigations se poursuivent, donc tous azimuts. On apprend aujourd'hui que la piste Lelandais va être explorée dans deux affaires de disparition dans la Drôme. Celle d'un homme de 48 ans en 2016 et une jeune femme de 29 ans dont on est sans nouvelles depuis 2011. Pour les parents de Nelly Balmain, Serge Payot, c'est une lueur d'espoir.
Oui, le 8 août 2011, Nelly, 29 ans, s'est proprement volatilisée à Saint-Jean-en-Royans alors qu'elle avait quitté le domicile familial sur son scooter rouge. Depuis, aucune trace de la jeune femme. Marie-Christine Balmain, sa mère, se félicite que l'enquête soit aujourd'hui relancée car elle pense que sa fille a pu croiser la route de Nordal Lelandais.
Oh ben c'est troublant, un gars comme ça. Il faut examiner cette piste, c'est sûr. Les routes se croisent et puis on rencontre des crapules. On peut pas savoir ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'elle a beaucoup souffert. Nelly, j'ai mis 7 ans pour la voir. Elle était grande prématurée. J'aimerais tellement qu'elle soit là.
Cette incertitude est terrible.
C'est pas de nom, ça. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Je ne lâcherai pas. Il faut se battre.
En décembre dernier, Marie-Christine et son mari Pierre-Louis se sont rendus à Pont de Beauvoisin pour participer à une marche blanche pour Maëlys, car ils se sentent très proches des parents de la fillette, aujourd'hui en deuil.
Serge Payot, donc, pour RTL. Vous l'avez compris, hein, dans RTL Soir, on va vous faire vivre en direct la conférence de presse des parents de la petite Maëlys dans maintenant 25 minutes. Le scandale Striteo va au moins faire quelques euros ce soir. Isabelle, ce sont les automobilistes verbalisés illégalement.
Oui, c'est RTL qui vous l'a révélé. À Paris, des centaines d'amendes ont été dressées par des agents qui n'étaient pas assermentés. En effet, depuis le début de l'année, ce sont des sociétés privées qui contrôlent le stationnement. Striteo n'a pas respecté les règles. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Vous nous le disiez dès la mi-journée, les PV illégaux vont être annulés. Alors pour les automobilistes, comment ça se passe?
Eh bien, écoutez, ils seront tout simplement remboursés, mais pas tout de suite. La mairie de Paris doit encore affiner les modalités avec Striteo, elles seront décidées dans les semaines qui viennent, confie-t-on à l'hôtel de ville. En attendant, rien ne vous empêche de faire un recours administratif en ligne sur le site consacré. La municipalité a pris connaissance de cette arnaque hier soir et a rappelé Striteo très fermement à l'ordre. Une enquête interne a été diligentée.
Et ce qui est assez incroyable, Arnaud, c'est que pour l'instant, la mairie de Paris n'envisage pas de casser le contrat.
Effectivement, ce n'est pas dans les projets de la municipalité et cela irrite sérieusement la droite parisienne. Philippe Goujon avait déjà dénoncé le mois dernier un grand flou sur les pratiques de la société Striteo et avec ses nouvelles révélation cette fois, il enfonce le clou.
Ça me conforte dans la proposition qui est de faire un audit de cette société. Maintenant, je vais plus loin et je demande au nom des Parisiens qui ont été verbalisés à tort, notamment des sanctions non seulement financières, mais aussi des sanctions pénales, le déclenchement d'une enquête judiciaire et qu'il soit mis un terme au contrat, que la ville de Paris passe un nouvel appel d'offres pour recruter une nouvelle société.
En attendant, reste à savoir le nombre exact de PV illégaux qui ont été dressés. Et pour cela, il faudra faire le tri entre des milliers d'amendes depuis le mois de janvier.
Merci beaucoup Arnaud Touche donc pour RTL.
Le Front National devrait bien changer de nom. En tout cas, selon Marine Le Pen, le principe a été validé par les militants à une courte majorité. La nouvelle appellation fera l'objet d'un autre vote. La présidente du FN fera sa propre proposition dimanche.
Et on en reparle tout à l'heure à 18h30 précisément avec Alain Duhamel. C'est l'une des affaires les plus mystérieuses de ces dernières années. Le procès de Peter Madsen s'est ouvert aujourd'hui à Copenhague.
Cet inventeur danois est jugé pour le meurtre de la journaliste suédoise Kim Wall. C'était l'été dernier à bord du sous-marin qu'il avait lui-même conçu. Peter Madsen a reconnu s'être débarrassé du corps qui a été retrouvé démembré et lesté en mer. Mais il a toujours nié l'agression sexuelle et le meurtre de la jeune femme. Aujourd'hui, à la barre, Christophe Decroix, il parle d'un accident.
Oui, Peter Madsen s'est lancé dans des explications pour le moins compliquées. Selon lui, il y a eu un problème à bord du sous-marin. Tandis que la jeune femme était à l'intérieur de l'habitacle, et lui sur le pont, il y aurait eu une soudaine et inexpliquée dépressurisation de l'habitacle, un phénomène qui aurait alors libéré des gaz toxiques. Il aurait voulu lui porter secours, mais la chute de pression aurait provoqué un phénomène d'aspiration qui avait tombé le panneau d'écoutille. Bref, il n'a rien pu faire pour la sauver. Quand il est enfin parvenu à la rejoindre, il était trop tard. Il aurait alors, dit-il, pensé à se suicider. Mais finalement, explique-t-il, il s'est endormi. Tout juste consent-il à reconnaître qu'il a ensuite découpé le corps et décapité la jeune femme dont il a éparpillé les restes en mer. Le procureur semble d'autant moins enclin à le croire qu'on a retrouvé chez le suspect des vidéos de femmes violées et assassinées. Madsen a même fait des recherches, le matin même du drame, sur des décapitations de femmes. Mais là aussi, il a une explication. Le disque dur retrouvé chez lui avec ses vidéos ne lui appartient pas.
En fait, il a des explications à tout. Merci Christophe Decroix du service étranger de RTL.
RTL Soir, il est 18h08.
On marque une pause et dans un instant, incroyable, écoutez bien, une technique qui pourrait permettre de prédire la sortie d'un coma.
Il est 18h10, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et ça ressemble à de la science-fiction. On pourra peut-être bientôt prédire la sortie d'un coma, Isabelle.
Oui, une nouvelle technique est testée actuellement en France, en Belgique et en Italie. Elle devrait permettre de savoir avec certitude si un patient peut se réveiller ou pas. L'espoir, c'est bien sûr d'éviter les cas douloureux, comme par exemple celui de Vincent Lambert. Bonsoir Sophie Orange.
Bonsoir.
Comment peut-on prédire une chose pareille?
En faisant une IRM, plus exactement une technique particulière de l'imagerie magnétique qui mesure le mouvement de l'eau dans le cerveau. Le professeur Puy Basset, chef du service de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, vient de publier une étude sur 200 patients.
Plus le cerveau est abîmé, plus le mouvement de l'eau est libre et moins il est tenu dans une seule direction. Et ceci est relié au pronostic.
Autrement dit, si l'eau se diffuse peu, le patient a des chances de sortir du coma. À l'inverse, si l'eau est très mobile, il ne sert à rien de continuer les traitements. Grâce à cette IRM, les équipes médicales disposeront donc de preuves pour ensuite discuter avec la famille du malade et prendre des décisions.
Cette technique apporte des valeurs quantitatives sur un sujet extrêmement émotionnel et permet à chacun de sortir de l'émotion un petit peu pour se baser sur des faits scientifiques. Et ça donne de la confiance dans les décisions qui sont prises.
Dans l'idéal, cet examen doit être pratiqué 7 jours après la plongée dans le coma. Des comas après un arrêt cardiaque, mais aussi après une rupture d'anévrisme ou un traumatisme crânien. Mais ce grand spécialiste de l'assistance publique Hôpitaux de Paris le préconise aussi pour des comas chroniques devenus médiatiques.
Précision RTL signée Sophie Orange. Ils ont eu la peur de leur vie. Deux jeunes ont été sauvés de la noyade in extremis hier soir dans le Calvados.
Ils ont été piégés par la marée à Géfosse-Fontenay et se sont retrouvés immergés jusqu'aux épaules dans une eau à seulement 7 degrés. Bref, c'était moins une, Frédéric Veil.
Oui, c'est à 22h17, très précisément, que les pompiers ont reçu un appel de ces deux jeunes qui étaient encerclés par la mer montante à environ un kilomètre du littoral. Très vite et heureusement pour eux, les secours sont arrivés sur place et grâce à l'hélicoptère de la Marine nationale équipé de caméras thermiques, ils ont pu être élitreillés. Laurent Deluze est le patron de la SNSM de Grand-Camp-Mézy.
La mer montée, donc quand il y a des coefficients de marée, oui, c'est dangereux. Et puis dans une comme ça, c'est un peu de l'inconscience, quoi. Enfin, tout est rentré dans l'ordre, ils ont été récupérés, parce qu'il y avait quand même urgence, quoi. Ils avaient de l'eau aux épaules.
L'eau jusqu'aux épaules, une eau à seulement 7 degrés. Les deux jeunes qui n'avaient visiblement rien à faire dans cette zone du littoral étaient en situation d'urgence. Françoise Écureux, la mère de Géfosse-Fontenay.
Mais je ne comprends pas qu'ils aillent se promener la nuit à cet endroit-là. C'est pas une plage, hein. Il y a des parcs à huîtres, etc. Si ce n'est pour aller chercher des moules ou des huîtres, etc. Enfin bon, il n'y a pas eu mort d'homme, en tout cas. Voilà.
Et rappelons que sans l'intervention des services de secours, les deux jeunes étaient certainement voués à une mort certaine.
Dans le Calvados pour RTL, Frédéric Veil. Heureusement donc que les pompiers étaient là. Et pourquoi pas d'ailleurs les pompières, Isabelle.
Oui, les femmes sont très peu nombreuses chez les soldats du feu, à peine 16%, même 3% seulement en fait chez les pompiers professionnels. En cette journée du 8 mars, les pompiers du Nord lancent donc une opération séduction pour féminiser leurs effectifs, avec ce slogan, Franck Hanson, aux lances citoyennes.
Oui, lever certains obstacles et changer les mentalités, c'est le but de ce plan de féminisation chez les pompiers du Nord. Vaste chantier chapeauté par la commandante Sylvie Gevart. Elle a été la première femme dans la caserne de Lille en 1980.
Les portes sont grandes ouvertes et il ne faut pas ressembler à un gars pour s'engager. Il ne faut pas avoir les gros bras, il faut avoir une bonne condition physique. Il y a des mesures à prendre, des structures adaptées où on a une forte proportion masculine qui ne regarde pas toujours la femme sapeur-pompier comme une collègue. Et pourtant, quand elles arrivent dans les centres de secours, ça se passe bien.
Parmi les mesures qui visent à faciliter l'intégration de ces dames, la ville de Lalin accueille les enfants des pompiers volontaires pendant les interventions. Le maire Jean-Paul Fontaine.
C'est un service que l'on rend au corps des sapeurs-pompiers, de les délester d'une inquiétude quant à la reprise de leurs enfants. Si on peut susciter des vocations ou encourager des personnels féminins à franchir le pas, on aura tout gagné.
À 21 ans, Marie, elle, s'est engagée dans la Vénois, fière de porter l'uniforme.
Il faut avoir du caractère, il ne faut pas se laisser faire. Bien sûr, il y a toujours les petites blagues qui fusent. Il faut plus en rire. Ça fait du bien de savoir voilà, qu'on aide les gens, qui comptent sur nous surtout. Toutes celles qui ont franchi le pas ne regrettent pas aujourd'hui.
Il s'agit aussi de montrer l'exemple dans les rangs de la hiérarchie où les femmes sont encore trop rares.
Franck Hanson pour RTL. Et puis les enfoirés qui ne veulent pas être les otages du conflit entre TF1 et les opérateurs.
Canal+ a rétabli hier soir la diffusion des chaînes de TF1 pour ses abonnés par satellite, mais 2 millions de foyers en sont toujours privés. Or, demain soir, la première chaîne diffuse le nouveau concert des enfoirés au profit des Restos du Cœur. Le risque, c'est de passer sous la barre symbolique des 10 millions de téléspectateurs. D'où cet appel de Michael Youn.
Je veux juste demander aux distributeurs à TF1, c'est l'espace une soirée, de faire une sorte de trêve, parce qu'il y a la diffusion du show des enfoirés, que c'est pas une émission commerciale, c'est une émission caritative. Moins il y a de gens qui regardent l'émission, moins il y a de gens qui vont acheter le DVD. Et donc, je pense que par effet de domino, bah, ce sont, je sais pas, moi, 200, 300, 400 000, peut-être 1 million de repas en moins qui vont être servis. C'est énorme. Les gens qui n'ont pas à manger ont quand même déjà suffisamment de problèmes comme ça pour pas avoir à s'occuper des discussions de millions et de milliards entre TF1, Free, Orange et Canal+. Donc là, pour le coup, ça vaut vraiment la peine de se mobiliser, de dire, attendez, juste vendredi soir, entre 20h50 et 23h30, ne vous battez plus.
Michael Youn, joint pour RTL par Gauthier Delon-Bugard. À tout à l'heure, Isabelle.
À tout à l'heure.